Simone Veil, dans La pesanteur et la grâce, dit, et ça n'est certainement pas la première, elle dit que le mal est une sorte de chose contagieuse. Le mal ne dégrade pas seulement, ne salit pas seulement, ne souille pas seulement celui qui le fait, celui qui le commet. Mais le mal dégrade, salit et souille aussi celui qui le reçoit, celui qui en est victime. Et c'est pourquoi, dit-elle, il y a souvent une sorte d'illusion qu'on se fait à propos des révolutions. Dans les révolutions, bien souvent, ce sont les victimes qui deviennent les maîtres. Et on se dit que, puisqu'elles ont été victimes, une fois parvenues au pouvoir, elles établiront la justice, elles ne répéteront pas ce qu'elles ont subi. Or, souvent, c'est une illusion, parce que les victimes elles-mêmes ont été souillées par le mal qui leur a été fait. Et c'est pourquoi, bien souvent, trop souvent, les victimes, les anciennes victimes dans les révolutions deviennent elles-mêmes des bourreaux. Et c'est le sort de bien des révolutions, observe-t-elle. Et c'est une chose qu'on voit et qu'on ressent soi-même tous les jours. Lorsqu'on a été victime d'un mal, lorsqu'on nous a fait du mal, notre premier réflexe est très injustement de le répandre, de le passer sur d'autres. Lorsqu'on est en colère parce que du mal nous a été fait, parce qu'une souffrance nous a été infligée, notre premier réflexe est de le répandre, de le passer sur des gens qui n'ont rien à y faire, qui sont totalement innocents. Et c'est ainsi que le mal a tendance à se propager. Le mal n'est pas seulement dans celui qui le fait, mais il se répand sur celui qui l'a subi et qui essaye lui-même de le passer à d'autres. Ce qui, au demeurant, ne l'enlève pas de soi, mais ça se propage, comme ça, indéfiniment, comme une épidémie. Et Simone Veil dit que la seule manière d'éviter cette propagation du mal, la seule manière d'éviter que tout cela ne se poursuive indéfiniment, c'est d'opérer en soi et volontairement une transformation du mal qu'on a reçu en souffrance. C'est à nouveau une sorte d'opération de retrait, un peu similaire dont celui dont elle parlait et dont j'ai parlé ici. On accepte volontairement de ne pas faire ce qu'on voudrait, de ne pas occuper tout l'espace, de ne pas répandre le mal qui nous a été fait. Volontairement, on se restreint. Volontairement, on renonce à diffuser le mal et on transforme ce mal en souffrance. Et cette souffrance, d'une certaine façon, le purifie et permet au mal de ne pas se répandre. Je ne sais pas ce qu'elle a exactement en tête lorsqu'elle écrit cela, mais il y a des analogies qui viennent. C'est dans ces espèces de discussions sans fin et totalement stériles qu'on a parfois, où des arguments s'échangent, où des réparties se font, où des claques morales sont données entre deux personnes. Il apparaît vite que tout cela n'a pas de fin et que tout cela est complètement stérile. Et on comprend un peu confusément qu'il n'y a pas de façon d'en sortir, ou plutôt que la seule manière d'en sortir est que l'un des deux accepte à un moment donné de se retirer, de ne plus jouer le jeu. Et ce faisant, d'une certaine façon, il accepte de perdre la face, de perdre je ne sais pas trop quoi. Il accepte d'être considéré comme le perdant parce que, en fait, c'est la seule façon d'arrêter ce déchaînement de violence, serait-elle verbale, et donc de mal. Et en se retirant, il perd, il a de la souffrance, mais il sauve quelque chose de plus important, qui est que cette discussion stérile va va prendre fin et qui est que on ne va pas s'enfoncer indéfiniment dans cette violence et ce mal. Et derrière la souffrance, qui peut être légère, endurée par la personne qui se retire, eh bien, il y a un gain. Un gain supérieur. Et on fait ainsi un échange. On évite que la violence et le mal ne continuent à se répandre et n'augmentent. Et par cette sorte de sacrifice, quelque chose de plus important est sauvé. Mais c'est souvent ça la difficulté. La difficulté, qui n'en est peut-être pas une, c'est celui qui se sacrifie, celui qui transforme le mal en violence, il se sacrifie pour une cause supérieure, mais dont il n'a pas lui-même le bénéfice. C'est un bénéfice qui est dans une autre dimension. Et on revient un peu à ce que j'avais dit l'autre jour à propos du mal et du bien. Quand le mal se restreint, lorsqu'on accepte de souffrir pour que le mal s'arrête, un bien en surgit, mais il n'est pas dans la même dimension. Et on a un autre exemple de cela dans l'histoire du jugement de Salomon. Mais le jugement de Salomon, avant que Salomon n'intervienne et qu'il ne rétablisse en quelque sorte l'équation jusqu'au bout. Dans le jugement de Salomon, la vraie mère qui accepte de ne pas garder l'enfant pour que l'enfant survive, eh ben, on voit que avant que Salomon n'intervienne, elle échange une perte individuelle, elle va perdre son lien avec l'enfant pour quelque chose de supérieur mais qui ne lui sera pas donné, qui est la survie de l'enfant. Et voilà. Pour que l'enfant survive, elle accepte de le perdre. Et c'est un bon exemple de cet échange de souffrance contre fin de la violence. Avant que Salomon intervienne, l'équation, pour elle, est d'une certaine façon déséquilibrée. Elle perd son enfant, et ce qu'elle gagne en échange, ça n'est rien. Ça n'est pas elle qui gagne en échange, c'est l'enfant, c'est l'humanité, c'est le bien, c'est la bonté, c'est l'amour, mais elle-même n'en retire rien. C'est dans une autre dimension. Et pour que elle-même en retire directement quelque chose, il faut un Salomon, qui est un sage, un élu d'une nature particulière. Mais quand il n'y a pas, et c'est le plus souvent le cas de Salomon dans les parages, eh bien, ce que nous perdons dans le sacrifice que nous faisons pour que le bien s'établisse, eh bien, ça n'est pas nous qui le gagnons. Et c'est ainsi. En acceptant de ne pas répandre le mal, nous faisons un sacrifice, et le bien qui est ainsi créé, ou le mal qui est ainsi détruit, nous n'en sommes pas les bénéficiaires. Il y a un changement de dimension. Nous avons la satisfaction d'avoir arrêté cette propagation du mal, mais c'est tant pis pour nous. Et c'est ainsi. Bonne journée.